Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Deuxième confinement, phase numéro 2, fini la pédagogie. Le gouvernement durcit le ton, il va y avoir plus de contrôles et d'amendes. C'est une information Europe 1. Rendez-vous jeudi, 18h. Jean Castex doit dévoiler si les règles du confinement vont évoluer. Les commerçants espèrent des assouplissements. Ils vont probablement devoir encore patienter. En attendant, des municipalités s'organisent pour les aider, comme à Dinan, où la mairie fait livrer à sa charge les commandes passées dans les boutiques de la ville. On en sait plus sur le fameux vaccin de Pfizer et BioNTech. Il utilise une technologie prometteuse, jamais expérimentée jusqu'à présent. Explication dans ce journal. Ce vaccin suscite en tout cas beaucoup d'espoir et de question, faudra-t-il le rendre obligatoire quand il sera disponible? La classe politique française est divisée. Dans ce journal également, la crise d'automne frappe le printemps. 7 des grands magasins du groupe vont fermer, 428 suppressions de postes. Curtis est innocent, le compagnon d'Elisa Pilarski conteste l'expertise qui incrimine son chien dans la mort de la jeune femme enceinte. Et puis le Vendée Globe et cette frayeur de Jean Le Cam, le vétéran des skippers, s'est endormi un peu plus longtemps que prévu. Le temps de demain, gris le matin, ensoleillé au sud l'après-midi et des températures toujours aussi douces, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a conservé son enthousiasme après l'euphorie d'hier. Elle a clôturé ce soir en hausse de 1,55% à 5 418 points. Tous les détails à venir avec Didier Hameau de Boursier.com. L'interview Echo dans 20 minutes. Et cette inquiétude, si les commerces ne rouvrent pas rapidement, les usines qui les alimentent risquent de fermer. C'est le message ce soir de l'invité d'Emmanuel Duteil. Il recevra Philippe Darmaillan, président de l'UIMM qui représente la métallurgie. Et enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il ne vous aura pas échappé, si vous habitez en ville, que ce deuxième confinement n'a de confinement que le nom. Beaucoup de monde dans les rues, attroupement devant les commerces encore ouverts et zéro contrôle ou presque. Eh bien, c'est une information que vous nous révélez ce soir, Louis de Raguenel. Tout ça, c'est bientôt terminé.
Oui, c'est un nouveau tour de vis et on va reparler des amendes à 135 euros. Selon nos informations, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé hier un télégramme à l'ensemble des préfets pour leur demander le renforcement des actions de contrôle du confinement. Après la tolérance, la sanction. Car pour le gouvernement, si les Français continuent d'être disciplinés et d'être pleinement conscients des enjeux du confinement, ils en ont marre des restrictions de liberté et s'en accommodent un peu trop. Et je peux vous dire que les policiers et les gendarmes ont constaté ce week-end un relâchement avec les attestations, particulièrement dans les grandes villes. Dans ces agglomérations, d'ailleurs, la consigne est de faire plus de contrôles dans les parcs et les jardins où se retrouvent les familles avec leurs enfants, mais aussi le long de grands axes, aux abords des gares et des aéroports.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Ce durcissement devrait être officialisé jeudi par Jean Castex. Le Premier ministre tiendra à 18h son point presse hebdomadaire, 15 jours après l'entrée en vigueur du deuxième confinement. C'est donc l'heure, comme promis par l'exécutif, de la clause de revoyure, tant attendue par les petits commerçants qui espèrent pouvoir rouvrir. Espoir vite douché ce matin par le porte-parole du gouvernement. Il est encore très tôt pour proposer un assouplissement des règles du confinement, a prévenu Gabriel Attal. La situation sanitaire est toujours critique. En clair, les commerces non essentiels vont devoir encore patienter. Voilà pourquoi, à Dinan, dans les Côtes d'Armor, la mairie tente de donner un coup de pouce aux commerçants en organisant la collecte et la livraison gratuite de toutes les commandes, comme l'a constaté pour Europe 1 Charles Guyard.
Donc toi, tu avais besoin d'un sweat. Quelle taille il te faut ?
Si Frédéric Guillemot connaît plutôt bien ses clients, eux ne connaissent pas forcément tous ses produits disponibles. Alors puisque son magasin doit rester fermé, ce vendeur de prêt-à-porter promène son téléphone dans les rayons et filme en direct plusieurs modèles à une acheteuse potentielle.
Okay, bon, on part sur celui-là.
Un peu plus loin, dans la même rue, Muriel Lucas réalise elle aussi une vente à distance.
Boutique à l'infini, Muriel, bonjour. Est-ce que vous savez déjà quel type de bijoux vous souhaitez ?
Ici, pas de vidéo, la transaction se fait grâce à des visuels envoyés aux clients.
Hier, j'ai par exemple envoyé 26 photos à quelqu'un pour qu'il puisse choisir un cadeau d'anniversaire.
Un cadeau qu'un transporteur livrera samedi à domicile, comme toutes les autres commandes de la semaine des commerçants de Dinan. Pour Dominique Oran, élu au commerce, l'objectif est clair.
On sait qu'aujourd'hui, les clients peuvent tout de suite se déporter sur des grands sites internet, et donc aujourd'hui, on doit leur apporter un petit plus. Il faut qu'on ait une offre attrayante, et il faut que les commerçants aujourd'hui se défendent avec leurs armes.
Des armes certes modestes, face aux géants de la vente en ligne, qui livrent parfois en 24 heures, mais pour Muriel Lucas, la vendeuse de bijoux, le dispositif de la mairie est tout de même un vrai coup de pouce. pouces.
Clairement, l'envoyer, quand c'est un bijou, il y a des coûts d'assurance qui sont trop élevés pour que ce soit rentable pour nous.
Et la municipalité a consacré une enveloppe de 2000 euros à ce système de livraison qui va durer jusqu'au 30 novembre.
Charles Guyard à Dinan, dans les Côtes d'Armor, pour Europe 1. Si les petits commerçants s'organisent pour survivre à ce confinement, le salut, on le sait, passera forcément par un traitement ou un vaccin. Celui de Pfizer et BioNTech suscite depuis hier d'énormes espoirs. Il serait efficace à 90% et pourrait être autorisé d'ici quelques semaines. Eh bien, on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce fameux vaccin qui utilise une technique totalement innovante, l'ARN messager, une technologie jamais employée jusqu'à présent, Anne Le Gall.
Voilà, c'est une technologie nouvelle et c'est aussi celle qui a été choisie par les candidats vaccins des laboratoires Moderna et CureVac. On n'injecte pas dans l'organisme des virus inactivés, atténués ou des antigènes. On injecte des ARN messagers qui sont des petits morceaux d'instructions génétiques. Et ces ARN vont dire à nos cellules de produire des défenses immunitaires contre le Covid. Et c'est comme ça qu'on va éduquer l'organisme pour qu'il se défende. Alors ces vaccins à ARN messagers ont l'intérêt de pouvoir être produits très facilement, en grande quantité. Mais c'est vrai qu'on manque de recul sur cette technologie. Autant on sait pour les candidats vaccins de Pasteur ou Oxford qui utilisent des virus atténués que les effets secondaires sont modérés, parce qu'on a du recul, parce que c'est une technique utilisée dans le vaccin contre la rougeole par exemple. Autant là, avec l'ARN messager, il y a des inconnus. Et puis cette technique oblige aussi à relever un autre défi qui est logistique. Ce vaccin doit être conditionné, acheminé, conservé à moins 80 degrés, donc dans des congélateurs coûteux qui sont pour l'instant réservés aux hôpitaux et aux laboratoires.
Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. L'annonce de ce vaccin fait aussi beaucoup parler au sein de la classe politique française et certains se demandent d'ores et déjà s'il faudra le rendre obligatoire ou non. Et les avis sur le sujet sont partagés, Aurélie Herbemont.
Et oui, vous avez des partisans d'une vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est le cas de l'écologiste Yannick Jadot ou du numéro 3 de LR Aurélien Pradier. D'autres sont plutôt sur la ligne d'une vaccination massive, mais obligatoire uniquement pour les personnes âgées ou vulnérables et les soignants. Pour le patron de LR, Christian Jacob, il faut surtout attendre d'en savoir plus.
Il est trop tôt aujourd'hui pour expliquer qu'il faut aller vers une vaccination obligatoire. Attendons tous les résultats. Et puis nous verrons ensuite. Un peu de prudence, mais c'est un très bel espoir dans la situation de crise que nous vivons.
Un message pas loin d'être en phase pour une fois avec l'exécutif. Le gouvernement estime qu'il est trop tôt pour dire quelle pourrait être l'ampleur d'une campagne de vaccination, car il y a des questions logistiques. Il n'y aurait de toute façon pas 66 millions de doses disponibles du jour au lendemain. Et puis il y a la question des libertés individuelles dans un pays où l'adhésion au principe de vaccination est en recul. D'après un sondage Ipsos, 59% des Français seraient prêts à se faire vacciner contre le Covid, quand la moyenne mondiale est bien plus élevée, 74%. Même un ministre le confie, un vaccin préparé en moins de 2 ans, moi, je ne suis pas candidat.
Information d'Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La grève des enseignants pour dénoncer le protocole sanitaire dans les établissements scolaires a été peu suivie aujourd'hui, selon le ministère de l'Éducation nationale. 9% des enseignants du primaire et un peu plus de 10% des professeurs dans les collèges et lycées n'ont pas fait cours aujourd'hui. Et puis 5 mois après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France, le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui 4 informations judiciaires contre X. Les motifs sont abstention volontaire de combattre un danger, mise en danger de la vie d'autrui et homicide. Des blessures involontaires.
Europe Soir, Julien Pierce.
C'est un coup de tonnerre pour les emblématiques grands magasins printemps. Le groupe a annoncé cet après-midi vouloir fermer 7 magasins en France. 428 emplois sont menacés. Emmanuel Duteil, c'est là aussi une conséquence de la crise.
Oui, c'est simple. La crise du Covid a accéléré les difficultés du printemps. C'est comme ça que la direction, là, en fin de journée, justifie ce plan. La chaîne de grands magasins est très dépendante, bien évidemment, au moins à Paris, des touristes. Le printemps, qui, comme beaucoup de commerçants, souffre depuis des années aussi à cause des attentats, des grèves ou encore des gilets jaunes. Mais plus largement, le printemps est une victime de l'effondrement du marché de l'habillement. Ce marché a reculé de 15% en 10 ans. Les clients et clientes assez haut de gamme du printemps sont partis vers des petites marques plus en vogue ou carrément en ligne. Le printemps a mis du temps à prendre ce virage. Son image est aussi un peu brouillée auprès de la clientèle. Alors les dernières rénovation de magasins comme celui de La Nation à Paris le transforme plus en grand magasin de proximité. Mais voilà, ça ne suffit pas et c'est pour cela qu'il faut réduire la voilure. Un magasin, celui de Place d'Italie, va fermer à Paris. Fermeture aussi au Havre, à Strasbourg ou encore à Metz. Trois magasins Citadium, la marque de sportswear du groupe, vont aussi baisser le rideau, dont celui des Champs-Élysées. Là, c'est tout simple. Le loyer est tout simplement trop cher aujourd'hui, au moment où la fréquentation s'est effondrée. Le printemps espère maintenant trouver des repreneurs pour ces magasins et sauver quelques emplois sur les 428 qui sont donc menacés.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve dans quelques minutes pour l'interview Écho. Et cette annonce intervient dans un contexte de forte hausse du chômage au troisième trimestre. Il a bondi de près de 2 points et concerne désormais 9% de la population active. Plus de 600 000 chômeurs supplémentaires entre juillet et septembre. Amazon, dans le collimateur de Bruxelles, la Commission européenne accuse le géant américain d'enfreindre les règles de la concurrence en tirant profit des données de commerçants indépendants qui utilisent son site internet. Accusation rejetée en bloc par Amazon. Et puis si les relations sont tendues sur le plan économique entre les États-Unis et l'Europe, elles pourraient en revanche vite se réchauffer sur le plan diplomatique. Joe Biden a reçu aujourd'hui coup sur coup les appels de félicitations de Boris Johnson, d'Angela Merkel, puis d'Emmanuel Macron. Le président français et Joe Biden ne se sont encore jamais rencontrés. Joe Biden qui déclare ce soir que le refus de Trump de reconnaître sa défaite est une source d'embarras, mais que cela n'aura pas beaucoup d'impact sur la transition à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron a tenu cet après-midi un mini-sommet sur la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'Autriche, de l'Allemagne et des représentants de l'Europe. Il faut une réponse rapide et coordonnée pour faire face à cette menace, a déclaré le chef de l'État, qui a par ailleurs dénoncé un dévoiement du droit d'asile dans les pays européens. Et à propos de terrorisme, 7 hommes et une femme sont renvoyés aux assises par les juges en charge de l'enquête sur l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. La tuerie de la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts. 3 des accusés sont suspectés d'avoir eu connaissance de l'existence du projet du terroriste abattu le soir même par la police. C'était il y a près d'un an la mort d'Elisa Pilarski lors d'une promenade en forêt où se déroulait une chasse à courre. La jeune femme enceinte avait succombé aux morsures d'un chien. Or, les tests ADN dont les résultats ont été révélés il y a une semaine incriminent très clairement le chien qu'elle promenait, Curtis, le pitbull de son compagnon. Eh bien, ce dernier s'est exprimé aujourd'hui pour contester cette version, Stéphane Place.
Oui, contestation totale des conclusions rendues par les experts qui tentent à démontrer l'implication exclusive du chien Curtis dans les morsures à l'origine de ce drame. Des tests ADN désignent cet animal comme le responsable de la mort de la jeune femme enceinte. Compagnon de la victime, d'Elisa Pilarski, Christophe Ellul ne croit pas du tout à cette thèse et l'a répété cet après-midi au cours de cette conférence de presse.
Il y a plein d'ombres sombres dans cette enquête. Je vous promets que je vais tout démonter. Tout démonter cette mascarade. Parce que Curtis n'a jamais été méchant. Parce que Curtis aimait Elisa. Parce que Curtis n'est pas agressif. Curtis n'a jamais été dressé au mordant. Donc non, pour moi, j'ai aucun doute. Je veux la vérité.
Et l'avocat de Christophe Ellul, maître Alexandre Nouvion, s'interroge aussi sur les travaux des experts.
Malgré ces expertises, le mystère est entier. On s'est entêté à ne pas vouloir suivre les traces d'une autopsie avec des conclusions qui étaient des conclusions extrêmement détaillées, qui disaient que l'hypothèse la plus probable, c'était celle d'une attaque de chien de chasse à courre. Eh bien, vous ne pouvez que vous interroger.
Maître Nouvion a annoncé cet après-midi qu'il allait demander la réalisation de contre-expertises dans ce dossier.
Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Ils sont actuellement au large du Portugal. Un peu plus de 48 heures après avoir quitté les Sables d'Olonne, les skippers du Vendée Globe s'apprêtent à affronter une grosse tempête dans les jours qui viennent. Et ce matin, Corinne Boulou, petite frayeur sans conséquence pour le doyen Jean Le Cam.
Oui, il ne s'est pas ménagé depuis le début de la course, Jean Le Cam. À 61 ans et pour sa 5e participation, il est aux avant-postes sur son monocoque baptisé avec dérision Yes We Cam. Et ce matin, une panne de réveil à une quinzaine de kilomètres des côtes espagnoles aurait pu lui coûter très cher. Anecdote racontée aujourd'hui au PC Course par Jean Le Cam lui-même, avec ce ton décalé qui le caractérise.
Je me suis endormi complet, j'étais crevé. Et je me suis réveillé à 7 milles de la côte. Oh putain! Et là, virement de bord, en catastrophe, le réveil a pas dû sonner, ou je sais pas quoi, c'est le temps de s'habituer à tout. Il y a tellement de bazar dans ces bateaux, là, que je m'habitue un peu, quoi. Du coup, comme j'ai fait un chaos technique, je suis un peu plus reposé, quoi.
Et il vaut mieux être reposé pour affronter la première grosse tempête du Vendée Globe. Elle s'annonce notamment en ce moment sur la route des favoris plein ouest. Ils vont devoir affronter de très fortes rafales de vent. Et il y a ceux qui, comme Jean Le Cam, plus au sud, le long des côtes du Portugal, ont choisi la prudence. Ce sera donc un premier test important pour la flotte du Vendée Globe, qui reste une course par élimination, ne l'oublions pas.
On ne l'oublie pas. Merci beaucoup Corinne Boulou qui suit pour nous ce Vendée Globe. La météo, Anissa Haddadi, le temps va changer demain.
Oui, avec dès demain matin, Julien, sur les deux tiers du pays, un ciel très nuageux. C'est en Gironde, en Auvergne, sur les Alpes et en Corse que les éclaircies résistent encore demain matin. Et puis dans l'après-midi, une perturbation arrive par la Bretagne. C'est une petite perturbation, mais elle amènera quand même de la pluie et du vent, le vent du sud qui souffle et se renforce sur les côtes du Finistère. Alors au nord de la Seine, le ciel est très couvert. Demain, hein, c'est là qu'il fera le moins beau. Sur la région parisienne, les Pays de la Loire, la Gironde, le Val-de-Saône et la Bourgogne, attention, les grisailles matinales auront du mal à se dissiper. Et puis au sud de la Loire, là le ciel est bien dégagé, le soleil brille et c'est encore une journée assez printanière. Alors les températures, elles sont toujours douces pour la saison, bien au-dessus des normales, avec 10 à 13 degrés au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée, 7 à 10 partout ailleurs. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 13 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à Lille, 14 à Paris et 15 à Rennes, et 16 à 21 degrés sur la moitié sud, 16 à Lyon, 18 à Nice et 20 pour Biarritz.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1. Julien
Pierce. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview Echo et cette inquiétude. Si les commerces ne rouvrent pas rapidement, les usines qui les alimentent risquent de fermer. C'est le message ce soir de l'invité d'Emmanuel Duteil. Il reçoit Philippe Damarian, président de l'UIMM qui représente la métallurgie. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Retour au calme à Wall Street ce soir après la flambée d'hier.
Oui, Wall Street est plus tranquille ce soir, tranquille mais ferme quand même, avec un Dow Jones qui progresse encore de 0,9%, 29 421 points, toujours aidé par les espoirs de vaccins pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le Nasdaq recule quand même encore, comme hier d'ailleurs, d'1,37%, 11 554 points. Donc toujours cette dichotomie entre les industriels qui remontent, les valeurs de technologie qui baissent. Les industriels, donc Boeing, c'est un petit peu l'image du marché en ce moment qui remonte de 5%, $188.70. On a aussi General Electric, plus 3%. Et donc les technologiques qui avaient fait le bonheur des boursiers pendant la crise, eh bien les technologiques baissent. Amazon, moins 3,5%, encore une baisse assez nette, $3,035. Tesla, moins 2,5%. Apple, moins 0,3% à $116. Et Microsoft, moins 3,3%. Le pétrole remonte encore de près de 4%. Il avait grimpé de 5% hier. On est à $41.50 le dollar. $41.40 exactement, le WTI, le baril. Donc le baril de brut très ferme. Exxon n'en profite pas vraiment. $36.85. L'euro campe sur les 1,18 sur le marché de devises, 1,18 face au dollar.
Apple qui a donc perdu du terrain alors qu'il a présenté aujourd'hui de nouveaux ordinateurs avec une puce maison, si j'ai bien compris.
Oui, c'est exactement ça. Et ça n'a pas vraiment fait réagir la bourse. D'ailleurs, Apple a un petit peu tourné en rond, mais il y a cette grosse pression sur les valeurs de technologie avec des prises de bénéfices. Tous ces titres étaient montés énormément ces dernières semaines, ces derniers mois. Et elles avaient servi de valeur refuge en pleine crise du Covid sur les marchés. Et donc, logiquement, toutes ces valeurs sont en train de redescendre sur des prises de bénéfices assez massives. C'est l'exemple d'Apple, effectivement. Ça n'a pas réagi ce soir, en baisse de 0,3% à la clôture.
En revanche, à la Bourse de Paris, ça a encore progressé de 1,5% après l'envolée qu'on se souvient d'hier.
Oui, ça continue. Plus 1,55%, 5418 points sur le CAC 40, un niveau oublié depuis le mois de mars dernier, après le gros rebond de 7,5% hier sur les espoirs de vaccins. Donc, Et comme hier, ce sont les secteurs les plus malmenés ces derniers mois qui remontent. Donc toujours le même schéma avec les valeurs foncières, par exemple, qui avaient beaucoup baissé ces derniers mois. Ça remonte nettement sur Unibail, plus 20%, sur Klépierre, plus 18%, sur Icade, plus 15%. Mercialis et Carmila gagnent 12%. On a aussi le secteur bancaire qui remonte aussi avec BNP plus 8%, Crédit Agricole et Société Générale plus 5%. Les valeurs pétrolières aussi, dans le sillage du baril qui grimpe, on l'a vu, hein, encore de 4% ce soir. Eh bien, Vallourec regagne 11%, CGG plus 10%, ce sont des valeurs parapétrolières en particulier qui en profitent. Technip aussi progresse de 5% ce soir.
Exception du jour, Ubisoft, le développeur de jeux vidéo, qui perd encore du terrain.
Oui, alors c'est l'inverse, ce sont les secteurs qui avaient servi de refuge qui se dégonflent, et le secteur des jeux vidéo avait bien performé pendant cette crise, donc sur les marchés boursiers. Ubisoft redescend de 3%, il avait déjà baissé hier, 73,62€. Les analystes de Midcap Partners ont ramené leur objectif de cours sur Ubisoft de 72 à 70€. Ubisoft gagne quand même 23%, hein, toujours depuis le 1er janvier, donc la performance est quand même honorable. Et mieux que ça, même Ubisoft, malgré cette baisse de 3% ce soir, à 73,62€. Sur les autres places financières, ça monte encore un petit peu partout en Europe, avec une hausse de 0,5% à Francfort, 3% de mieux à Madrid. Londres prend encore 1,8%, et donc le CAC 40 en hausse d'1,55% de nouveau à 5 418 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de Boursier.com, et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Philippe Darmaillan.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'UIMM, vous êtes donc à ce titre-là le représentant de l'industrie. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est pour faire un point sur la situation de l'industrie dans ce deuxième confinement. Au premier confinement, ça avait été le bazar, les protocoles sanitaires n'étaient pas en place, une bonne partie des usines étaient restées fermées un bon moment avant de pouvoir progressivement rouvrir. Là, d'une certaine manière, comment je pourrais dire ? Est-ce que grâce à cet entraînement, l'industrie tourne ?
Absolument, on est prêt. Donc on était prêt puisque tous nos protocoles étaient faits. Et donc nous tournons actuellement, aucune usine à ma connaissance dans la métallurgie au moins s'est arrêtée. C'est un grand changement par rapport à mars, effectivement.
Un grand changement. Les chiffres qui sont sortis récemment montrent que l'industrie française s'était fortement redressée après le premier confinement. Selon vous, on reste à peu près sur cette ligne ?
Nous étions entre 90 et 95% d'activité avant le deuxième confinement. Seule l'aéronautique était continuait d'être dans son marasme. La situation est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on tourne et on tourne de façon satisfaisante. La seule inquiétude que nous avons, c'est une inquiétude à terme, puisque les commerces ne tournent pas, les concessions automobiles sont partiellement en grande partie fermées, et donc nous anticipons que dans quelques semaines, eh bien le tuyau de produire pour les stocks s'arrêtera, et donc nous avons un risque devant nous.
Puisque c'est ça le grand problème, vous prenez peut-être le meilleur exemple à Philippe Darmaillan, le secteur de l'automobile, à quoi ça sert de produire des voitures quand on ne peut pas les vendre ? Alors pour le moment, on peut assurer les livraisons, ça c'est autorisé du côté des concessions automobiles, mais elles sont officiellement fermées, on ne peut pas vendre de voitures.
Voyez, il est urgent de prévoir le redémarrage des commerces pour l'industrie, parce que dans quelques semaines, ça va être dramatique. Alors les concessions automobiles, ça devrait être immédiat. On peut assurer des concessions automobiles avec une sécurité sanitaire totale. Et sur les autres commerces, demandons à ce que des dispositifs soient prévus pour aménager des rendez-vous, click and collect, des rendez-vous avec les clients, et de façon à ce que les fêtes de Noël puissent se préparer et que l'économie puisse tourner à la base, c'est-à-dire par la demande des clients.
Sauf si vous avez eu des engagements différents des nôtres, mais selon les informations d'Europe 1, on est plutôt pour le moment sur aucune ouverture possible au minimum d'ici au 1er décembre. C'est également ce que vous pensez ?
Disons que le gouvernement nous écoute, on n'est pas encore au stade des décisions. Le fonctionnement du gouvernement, et c'est normal, se passe par une série d'arbitrages, et pour le moment les arbitrages ne sont pas rendus. Donc nous avons effectivement, de la part d'un certain nombre de ministres, une oreille très attentive. Maintenant, ce qui m'importe, c'est les arbitrages. Clairement, si le commerce ne réouvre pas, si le carnet de commandes ne se remplit pas à nouveau, les usines s'arrêteront.
Alors, dans les usines, c'est plus compliqué d'appliquer du télétravail, parce que par définition, il faut bien des hommes et des femmes qui font tourner les machines et qui s'assurent que les produits se fabriquent correctement. En revanche, il y a bien évidemment beaucoup de bureaux aussi qui dépendent de l'activité industrielle. Beaucoup et notamment du côté des ministres, disent « les entreprises ne jouent pas assez le jeu, il faut qu'il y ait plus de télétravail ». Il en faut plus, de votre avis aussi, Philippe Darmaillan ?
Mon message, c'est que notre ligne est tout à fait claire. Le télétravail, comme le veut le gouvernement, doit être maximum. Mais il faut arrêter d'opposer les cols blancs et les cols bleus. Nous avons dans les usines beaucoup de cols blancs qui sont indispensables. À partir du moment où les usines tournent, il nous faut du management, il nous faut de l'animation, il nous faut de la planification, il nous faut de la logistique. Tout ça, ce sont des cols blancs. Et donc, il faut de façon claire que les chefs d'entreprise soient en responsabilité sur ce sujet. C'est à eux de déterminer si une personne doit être en télétravail ou non. Dans un esprit tout à fait coopératif avec ce que veut le gouvernement, nous devons faire le maximum.
Donc ce que vous dites, malgré tout, le tout télétravail pendant 5 jours par semaine quand c'est possible, oui, mais avec quand même beaucoup d'adaptation. C'est ça que vous demandez, Philippe Darmaillan.
Avec une appréciation de la situation réelle, avec une appréciation de la situation des productions. Pour produire, il faut l'ensemble des personnes qui soient nécessaires, qui soient présentes.
Enfin, dernière question, c'est vous, du côté de l'UMM, de la métallurgie, de l'industrie, qui avait poussé ce qu'on appelle l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Je résume, une entreprise peut pendant 2 ans réduire le temps de travail de ses salariés, donc le salaire, et c'est l'État qui prend une partie du salaire à sa charge. Finalement, il y a peu d'entreprises qui, pour le moment, signent ce genre d'accord. Pourquoi ?
Non, on a plus de 3000 entreprises qui ont signé. Nous avons à peu près 300 000 personnes qui sont concernées par l'APLD. L'APLD est à ce stade aujourd'hui un vrai succès. Nous avons fait cela pour éviter les PSE. Nous avons fait cela pour que les entreprises aient la flexibilité, dans un moment où elles ne sont pas à pleine capacité, de conserver leurs personnes. Je suis assez fier de cette proposition que le gouvernement a reprise et je pense que l'UMM est tout à fait dans son rôle à ce moment-là d'essayer effectivement d'avoir la vision
globale. Et vous appelez plus d'entreprises du coup à signer ?
Bien sûr. Nous avons même signé un accord de branche qui permet donc à chaque entreprise de la métallurgie de se saisir de la PLD sans même avoir à formellement renégocier. Elle doit bien évidemment assurer le dialogue social nécessaire, mais elle peut se saisir de l'accord de branche que nous avons pris. Donc nous appelons effectivement les entreprises à se saisir de cela, éviter les PSE et puis passer le cap de ce deuxième confinement le mieux possible.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Darmaillan, le président de l'UMM qui représente le monde de l'industrie et notamment de la métallurgie, d'avoir été en ligne avec nous ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe 1. Julien Pierce.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite.
Europe 1, le 22-22-30. Julien Pierce.
22h29 sur Europe 1, les unes de la presse de demain, 11 novembre. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, jour férié oblige. Vous trouverez tout de même dans vos kiosques West France. Vente de produits non essentiels, des contournements possibles, interroge en une le journal régional. Ces contournements, eh bien, ils existent déjà. Il est en effet possible d'acheter des livres, des jouets ou des habits dans certains supermarchés. Il suffit pour cela de demander l'article à un vendeur, puis de le récupérer dans un point de retrait du magasin. Une interprétation, un contournement des règles qui provoque la grogne, on peut le comprendre, des enseignes fermées. Vaccin anti-Covid, un espoir, mais encore des questions, titre pour sa part le Figaro. Effets secondaires, production, stockage à moins 70 degrés. Les résultats très prometteurs présentés par Pfizer nourrissent de nombreuses interrogations sur le déploiement de ce vaccin. L'une des questions majeures, c'est la confiance. Les Français accepteront-ils de se faire vacciner massivement ? C'est la condition sine qua non pour créer une immunité de groupe et entraver la circulation du virus. Eh bien, c'est loin d'être acquis en France, écrit Cyril Vandenberg dans l'édito du Figaro. Une étude lancée dans 15 pays rappelle que nous détenons un triste record, celui de la défiance. Pas moins de 46% des Français déclarent ne pas avoir l'intention de se faire vacciner contre le Covid. Voilà pourquoi, en plus de devoir mettre en place un plan de vaccination crédible et efficace, le gouvernement va avoir un autre défi sérieux à relever, convaincre les Français sans les contraindre de l'importance de se faire vacciner, conclut l'éditorialiste du Figaro. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Excellemment bien.
Bon, et bien tant mieux, votre libre antenne donc jusqu'à 1h du matin, 39-21 pour témoigner et intervenir à tout moment sur l'antenne d'Europe 1.
Exactement, et nous on se retrouve à 23h pile pour le flash.
À tout de suite.
À tout à l'heure.